Bon matin et bienvenue à Montréal. Si vous nous entendez actuellement, c'est que vous avez accès à un épisode secret de Poutine à deux. Donc, pour ceux parmi vous qui sont en contact avec nous via les médias sociaux, vous êtes très certainement au courant que nous avons eu un enregistrement public dans le contexte du festival Montréal Joue. Dans le contexte de ce festival, nous avons eu la chance de passer en entrevue Jules Gosselin-Baudet, qui est à la création de Gros Joueurs, une organisation qui se spécialise dans l'événementiel à Montréal. Nous avons d'abord, bien évidemment, discuté de la mission de son entreprise. Nous avons discuté aussi des différentes avancées qu'ils font dans le domaine de l'éducation et aussi le développement de périphériques assez inusités pour des expériences vidéoludiques. Et bien évidemment, recette de poutine à deux oblige, nous avons discuté de poutine. Comme vous pouvez vous douter, la sonorisation, la qualité de production risque d'être un peu différente de cet épisode-là, donc ça contraste avec qu'est-ce que vous aimez, on s'en excuse, mais nous souhaitons tout de même que vous allez grandement apprécier cet épisode. Sur ce, je me tais et je laisse toute la place à cet entretien. Donc oui, mon nom est Patrick Tellen, je suis concepteur de jeux, co-animateur et producteur de Poutine à deux. Donc ce soir, comme vous pouvez le voir, il y a deux personnes à mes côtés. Donc d'abord, à ma droite, j'ai l'autre, étonnamment, co-animateur de Poutine à deux, et il se nomme Grégory Bellacelle. Bien le bonsoir, Greg, est-ce que ça va bien?
Ça va très bien, merci Pat.
Qu'est-ce qui arrive avec toi, Greg? Bon, on est devant des gens, c'est samedi soir, c'est vraiment à l'extérieur de nos traditions, de nos habitudes. Comment tu te sens face à ça, là?
Non, mais ça va être une expérience intéressante parce que c'est un poutine à trois, d'habitude.
Oui.
Même si tu es présent pour aider à enregistrer l'émission, il y a justement nous deux qui parlent. Là, il va falloir trouver des façons de ne pas se parler l'un par-dessus l'autre. Ça va être intéressant.
Qui sait, on peut peut-être faire un test avec les auditeurs actuellement. C'est quoi, c'est des visionneurs? En fait, c'est quoi le terme?
Des spectateurs.
Des spectateurs, donc. Voilà. On va avoir un signe secret ce soir pour bien faire les transitions. Devinez-le et venez nous voir ensuite après l'enregistrement. On va peut-être avoir une surprise pour vous. On a-tu une surprise? Mmh.
Aucune idée, on va improviser.
On va en créer une, donc, on n'est pas seul, bien évidemment, si vous comptez. Dans Poutine à trois, il y a trois personnes. Donc, en dessous de nous, à côté de nous, en fait, on a Jules Gosselin-Baudet, de Gros Joueurs, avec nous. Est-ce que ça va bien?
Oui, ça va très bien. Je suis très heureux de pouvoir participer à cette première édition de Poutine à trois.
Oui.
Donc, est-ce qu'on peut s'établir, en fait, dès le début, on va dire c'est qui fait les frites, fromage, sauce?
Oh,
moi, personnellement, j'aimerais ça être la sauce.
T'aimerais la sauce, Greg? À toi l'honneur.
En tant que Français, je vais prendre le fromage.
Très bien. En tant qu'homme de descendance irlandaise, je vais représenter la pomme de terre. Voilà.
Parfait.
Donc, trêve de plaisanterie, trêve de présentation. Pour ceux d'abord qui sont peut-être moins familiers avec Poutine à deux, essentiellement, comme vous allez le voir, c'est pas mal une émission de conversation. La petite différence, c'est qu'on reçoit des personnes de l'industrie du jeu vidéo à Montréal. Ça veut dire des développeurs, des médias, des gens en périphérie. On a déjà eu un historien, c'est incroyable. Et aussi, bon, la gimmick, parce que, bon, c'est important d'avoir une gimmick maintenant dans les médias. Nous autres, c'est qu'on mange de la poutine en faisant ça. C'est très convivial, c'est très québécois. Greg, je sais pas, peux-tu parler du concept aussi, ton impression?
Non, mais je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de plus conversationnel que de manger du comfort food et discuter de jeux vidéo? Honnêtement, je vois pas ce qu'il y a de mieux que ça.
Absolument. Quel visionnaire. Ben, on va commencer justement en parlant de notre gimmick, c'est-à-dire la poutine, nos choix de poutine. Donc d'abord, on va commencer avec toi, Jules. On s'est rencontrés tantôt, on a dit « bon, quelle poutine t'aimerais avoir? » Là, t'avais dit que tu voulais y aller avec quelque chose de plus classique. Peux-tu expliquer pourquoi?
Oui, ben en fait, j'ai décidé aujourd'hui d'aller avec un choix traditionnel, classique de poutine. Parce que hier, dans le cadre d'un événement dans lequel on participait, il y avait un buffet de poutine à volonté à la fin de la soirée. Donc, c'était un assez mauvais timing compte tenu de ce qu'on avait aujourd'hui. Donc, je voulais le moins possible de viande ou de superflu. Je voulais vraiment retourner à la base de qu'est-ce qu'une poutine, c'est.
Non, c'est ça. Un homme qui aime le classicisme, je respecte ça, sérieusement.
Exactement.
Très bien. Sinon, Grégory, ça s'aligne sur tes préférences générales de poutine. On se le cachera pas, là.
Non, mais tu me connais que moi, personnellement, j'aime justement la poutine avec de la viande et j'aime les merguez. Donc, j'ai pris une tunisienne qui est une poutine avec des merguez. Et voilà.
Très bien, très bien. Sinon, de mon côté, ça va être intéressant pour l'historique. Avant l'émission, j'ai dit « Ah, je vais y aller avec une poutine à la viande fumée pour représenter Montréal, Montréal joue Alouette. »
finalement, j'ai un changement. J'ai dit, on est en début de soirée, j'ai besoin d'une petite poussée, j'ai besoin de sucre. Donc, j'ai vraiment opté pour une poutine Général Tao. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je vais virer fou en pleine scène? On va le voir. Mais on va y aller vraiment avec la discussion proprement dit. Puis on va parler avec toi, Jules. Es-tu oui. à l'aise face à ça?
Pardon? Oui, absolument.
Fantastique. On va y aller vraiment avec la genèse. Bon, tu fais partie de Gros Joueur. Pourrais-tu expliquer grosso modo en quoi consiste Gros Joueur?
Bien, Gros Joueur, en fait, c'est une compagnie de jeux vidéo événementiels. Donc, ce qu'on fait, c'est que nous, on ne développe pas des jeux à proprement dit ou très peu, des fois modé un peu les jeux, mais principalement, ce qu'on fait, c'est qu'on développe des périphériques, des installations, puis un service d'animation qui va venir avec ça. Fait qu'autant dans des contextes plus éducatifs qu'on va faire dans les bibliothèques, dans des activités parascolaires, dans des écoles, ou qu'on peut faire des côtés quelque chose de complètement festif. Donc, faire des animations de parties privées, même on a même fait des mariages, des bar mitzvahs, où on va apporter des jeux. Donc, pour les personnes qui veulent faire changement un peu du centre éternel karaoké. Puis là, de toute façon, on le voit de plus en plus, il y a une ouverture pour avoir des divertissements alternatifs là, autour du jeu vidéo. La preuve, c'est des événements comme aujourd'hui, qui permet de voir qu'il y a un engouement plus généraliste pour les jeux vidéo. Donc, c'est ça. Fait que c'est vraiment d'avoir des jeux qui vont être aussi... d'utiliser le jeu vidéo comme vecteur de relations sociales parce qu'il va y avoir toutes des personnes, de voir des personnes qui jouent ensemble. Plutôt que le jeu vidéo isole les gens, on veut que les gens soient ensemble pour jouer autour de... du même jeu, puis les spectateurs aussi puissent avoir du plaisir.
Très bien. Sinon, bon, on parle de maintenant, mais on va aller à la jeunesse, on va aller au passé. Jules, pourrais-tu nous parler de ton rapport avec le jeu vidéo dès ta enfance?
Oui, bien, en fait, tu sais, avec Gros Joueur, on utilise beaucoup de jeux rétro, consoles, etc. Mais je suis un peu un imposteur parce que je fais partie de ces pauvres enfants qui n'ont pas eu la chance de grandir avec une console parce qu'il y avait des parents qui avaient des visions là, très claires par rapport à ça. Ceci dit, je fais aussi partie des rares chanceux que j'avais un ordinateur en 386 pendant mon enfance. Donc, ça fait en sorte que la plupart de mes jeux avec lesquels j'ai grandi, c'est des jeux de PC. Donc, c'est sûr que j'avais pas le même cadre de référence que mes collègues d'école, comme les gens, ils parlaient de Mario, ils parlaient de Zelda, etc. Moi, pendant ce temps-là, ben, parmi les jeux qui ont le plus bercé mon enfance puis avec lesquels j'ai appris l'anglais, c'est vraiment tous les jeux d'aventure LucasArts, comme la série Monkey Island, Day of the Tentacle, etc. Sinon, ben, Doom a une place très importante aussi. Commander Keen, en fait, tout id Software. Je suis un grand, grand fan de id Software. Tu sais, your livre, le Masters of Doom, sur les deux créateurs, ça fait vraiment partie de mes livres cultes, là. Puis, fait qu'en fait, c'est ça, j'ai vraiment grandi avec les jeux de PC. Après, c'est sûr que, justement, j'avais des amis Nintendo, là, des personnes chez qui j'allais pour jouer à les jeux Nintendo, mais ça a pris du temps, parce qu'après ça, quand tout le monde a commencé à avoir des Pentium avec Duke Nukem 3D, avec Diablo, etc., moi, j'avais encore juste mon 386. Oh fait que j'ai pas pu vivre cette nouvelle génération-là en temps réel. Je pouvais jouer à ces jeux-là chez mes amis, encore une fois. Puis, c'est seulement plus tard, quand, justement, en commençant Gros Joueur, que j'ai eu accès à plein de consoles rétro, que j'ai commencé à jouer à des jeux rétro de Nintendo, Super Nintendo, 64, etc., chez moi. Donc, j'ai toujours été un peu pris dans le passé. Pas nécessairement par choix, mais par condition.
T'es vraiment dans une position privilégiée, je devrais dire, peut-être par rapport à la majorité des gens. Comme tu disais, moi, c'était le même en Mauricie. Tout le monde avait un Nintendo, tout le monde jouait à Mario. S'il y avait un gars qui jouait à Sonic, on le frappait dans le cours d'école, ainsi de suite. Mais justement, toi, en tant qu'adulte, t'as été confronté aux jeux de console de cette époque-là. Comment as-tu réagi à ça? Comment as-tu trouvé ça? Y avait-tu une élégance qu'il y avait dans les jeux de console qu'il n'y avait pas dans le PC ou vice-versa?
Bien, en rétrospective, moi, je maintiens que les jeux de mon enfance de PC étaient meilleurs que beaucoup de jeux de console qu'il y avait à ce moment-là. Non, pas nécessairement meilleurs, mais...
Fais attention à ce que tu dis, je suis un gros fan de Nintendo.
Ouais, mais pas nécessairement meilleurs, mais il y avait quand même... On s'entend qu'il y avait quand même un gros clivage dans ce qui se passait au niveau, je veux dire, moi je jouais à Dune 2, là, l'ancêtre de toutes les RTS de Westwood, là, puis donc... Puis Doom aussi, tu sais, c'est ça. Donc, c'était tous des jeux qui n'avaient aucun rapport avec ce qui se passait. D'un point de vue technologique, c'était souvent plus avancé là, que qu'est-ce qu'on pouvait voir. Oh, excusez-moi, juste une alarme.
Mais non, il n'y a pas de problème. C'est des choses qui arrivent. On est en 2018.
Ouais.
Donc, Greg, parle-nous de ce que tu as fait aujourd'hui, rapidement.
Ah non,
c'est que son alarme est réglée, là. Il ne va pas continuer à parler.
C'est bon, vas-y.
Donc, oui, c'est ça. Puis ça faisait juste que j'avais pas le même cadre de référence que les autres. C'est sûr que ce qui était plus plate par rapport à ça, c'est que je pouvais pas partager mes expériences de jeu avec mes amis à l'école. Comme les gens, ils parlaient du nouveau jeu qui avait sorti, est-ce que tu l'as loué, blablabla. Les gens, ils allaient louer des jeux au club vidéo, tu sais. Puis moi, je pouvais pas louer des jeux au club vidéo. Puis c'est sûr que plus les années avançaient, c'était de plus en plus difficile de trouver des jeux sur floppy disk qui roulaient sur un 386. Fait que j'ai eu... Mais j'avais la chance, par exemple, d'avoir un gardien. Tu sais, on se faisait garder La plupart du temps, on avait des gardiennes chez moi et ma sœur. Puis le quatrième backup, c'était un gardien qui était étudiant au cégep en informatique. Donc, il avait accès à plein de jeux. Ma sœur l'aimait vraiment pas. Mais à toutes les fois qu'il venait, par exemple, il installait une tonne de jeux sur l'ordinateur.
Des installations légales, on s'entend.
Oui, absolument.
Merci. Donc, non, mais je veux pas que la police débarque.
Non. On avait les manuels originaux parce qu'on sait à quel point les systèmes de protection étaient très forts au moment de le DRM, là, au moment de la disquette. Là, c'était quelque chose qui était vraiment respecté. Là.
Non, comme souvenir, moi, j'avais des jeux de Commodore 64 et notamment, c'était imprimé sur un papier que tu pouvais pas photocopier. Donc, FE, à une époque, c'était assez
violent. Non, mais il y en avait certains qui étaient quand même plus audacieux. Il y avait un jeu qui venait avec une petite roulette
à trois. Code, là, oui.
C'est ça, de code qu'il fallait faire pour pouvoir débloquer le jeu. Puis ça demandait quand même un peu plus de, si on veut, le d'effort pour dupliquer ce système de protection-là.
Ce que je trouve intéressant, d'ailleurs, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent aujourd'hui des mesures d'anticopie, mais les gens ont oublié que c'est pas nouveau, ça existait déjà, et c'était probablement même plus pénible parce que tu pouvais avoir le jeu original, perdre ton manuel et ne plus pouvoir jouer à ton jeu. Moi, je me souviens, ça m'est déjà arrivé et c'était particulièrement triste.
Oui, non, ça sort bien contre toi. L'intention était là, mais après ça, en tant qu'honnête payeur, des fois, ça peut être mort de derrière. Donc, c'est ça.
Sinon, t'es passé de quelqu'un qui aimait les jeux vidéo, qui t'est intéressé par ce domaine-là, mais qu'est-ce qui t'a amené éventuellement à dire « Moi, je veux partir une compagnie, je veux partir grand joueur pour faire de l'événementiel, pour faire de l'éducationnel. » Tu peux nous parler un peu de la genèse, puis qu'est-ce qui t'a amené à décider de partir ça?
En fait, Gros Joueur, c'est énormément transformé là, au fil des années. À la base, c'était moi avec un de mes collègues, Olivier Oji, qui est encore un des cofondateurs avec moi là, de Gros Joueur. On s'était rencontrés chez un ami commun, on a commencé à parler justement. Notre conversation est partie autour de Commander King. Puis là, on a commencé à parler de jeux, etc. À ce moment-là, lui, il est monteur vidéo. Puis à ce moment-là, il travaillait avec 33 Mag, là, qui était des web télé qui étaient les plus grosses là, à ce moment-là. Et puis, le projet de départ avec Gros Joueur, c'était de créer une web télé.
Ah ouais.
Donc, avoir plusieurs émissions. On avait plusieurs concepts d'émissions. Il y en a beaucoup qui ont été écrits. Certains qui ont même commencé à être réalisés. Finalement, il n'y a rien de tout ça qui est sorti. Puis, la raison un peu pour ça, c'est parce qu'on a fait un premier événement. Parce qu'à la base, qu'est-ce qu'on faisait? Il faut se dire, c'est ça fait... Tout début, le Gros Joueur zéro, là, édition zéro, c'était en fait des... Il n'y avait pas encore de barcade à Montréal. Il y avait pas... Là, maintenant, il y a quand même une meilleure offre. Fait que qu'est-ce qu'on faisait? C'était des barcades éphémères. Donc, c'est des événements que nous-mêmes, on produisait. Donc, on allait dans des salles, on apportait des consoles, on apportait... Là, c'était tout fait à la mitaine. Là, on déplaçait des bornes d'arcade qu'on avait trouvées chez un ami, chez un autre. On allait tout chercher ça, on ramenait ça. On organisait des compétitions conviviales là, de jeux rétro dans des bars. Puis là, on en a fait 4 ou 5 événements comme ça. Puis là, c'est de fil en aiguille, on a eu un contact avec la vitrine culturelle qui nous ont pris pour faire un événement. Ils ont fait confiance, en fait, pour animer un événement dans le cadre de la Nuit Blanche. Cet événement-là a extrêmement bien marché. C'est la première fois, en fait, qu'on avait, tout le long de la préparation, on pensait à nos jeux, aux installations qu'on allait mettre. Puis on se disait, il manque de quoi. Puis finalement, c'est 2 semaines avant la date de l'événement, on s'est dit, OK, on fait une manette géante. On fait une manette géante de Nintendo, on va s'arranger. Puis là, finalement, ben, on l'a fait, la manette qui est devenue un peu l'emblème là, de Gros Joueur. On l'a fait, la manette de Nintendo. On l'a amenée là, ça a eu un succès monstrueux, cet événement-là. Pratiquement 10 000 personnes qui sont venues. Puis c'est à partir de ce moment-là qu'on a réalisé le potentiel que ça aurait, notre... Cette bibitte-là, là, pour faire en fait de l'événementiel où on va aller... En fait, maintenant, notre modèle d'affaires, là, si on veut, c'est qu'on se fait vraiment engager par des personnes pour offrir un service. Parce que c'est sûr que la production d'événements, c'est extrêmement stressant.
Des fois, on peut mettre beaucoup d'efforts là-dedans. On ne sait pas si le succès va être au rendez-vous, puis après ça, on peut perdre de l'argent malgré avoir mis énormément de temps là-dedans. On s'entend que l'offre événementielle à Montréal est monstrueuse. Il y a énormément de choses qui se passent. Il y a une des éditions d'événements qu'on avait fait après une édition qui avait super bien été, on en fait un autre. Il y a un changement dans le calendrier des séries du Canadien. Fait qu'il n'y avait pas un chat parce qu'il y avait une game en même temps. Fait que c'est toujours des choses comme ça qu'il faut prendre en compte. Puis là, ça nous enlève un stress de cette façon-là. C'est que nous, on offre un service clé en main, puis on va s'assurer d'avoir toujours le meilleur service possible. Puis après ça, c'est la personne qui nous engage, c'est son travail de faire la promotion.
C'est super intéressant de voir un peu comment... au final, ce qui est gros jour aujourd'hui, c'est venu un peu... vous avez décidé de partir ça, puis finalement, l'événementiel, c'est vraiment ça qui a pris le dessus. Vous avez vu le potentiel de pouvoir faire ça. Mais toi et tes cofondateurs, est-ce que c'est vraiment l'idée de dire on est des tripeux de jeux vidéo à l'origine, on voulait faire... Vraiment, tu voulais faire quelque chose autour du jeu vidéo. L'événementiel est arrivé un peu par hasard en commençant à partir ça. Est-ce que c'est toujours quelque chose que tu as voulu dire en disant, ben, éventuellement, moi, j'aimerais ça pouvoir travailler ou toucher au domaine du jeu vidéo? Est-ce que c'est lié de cette façon à la passion que tu avais avant, ou c'est un peu juste comme... Hey, j'ai les amis, on est des tripeux, puis on va partir ça. Plus en plus, j'essaie de voir l'idée originale, en fait, de vouloir spécifiquement faire quelque chose dans le jeu vidéo, d'où c'est parti.
Ben, c'est vraiment comme c'est ça. À la base, je pense, c'est le concept, parce que ça, j'ai parlé de OG avec qui j'ai parti, mais aussi Stéphane, qui est le troisième cofondateur là, avec nous, qui s'est joint à nous dès le début. Là. Puis, en fait, c'était, je pense, le concept d'être des gens ensemble qui trip sur les jeux vidéo, puis qui en parlent ensemble, puis qui ont du fun autour de ça, puis qu'on voit... Parce que c'est ça, c'est avant qu'on fasse un premier événement public, l'édition, le genèse complètement, là, si on veut, de Gros Joueur, avant que ça s'appelle Gros Joueur, c'était chez moi, j'avais invité on était une vingtaine de personnes, on était 16 personnes, justement, pour faire un bracket de tournoi, avec... J'avais préparé un menu gastronomique là, de plusieurs services, tout le monde devait s'habiller chic, puis il y avait des compétitions de jeux vidéo, puis on misait de l'argent aussi là, sur... Fait que c'était pas très politically correct là, comme soirée. Mais en fait, ça partait de cet esprit-là que c'était des gens qui avaient tout le jeu vidéo en commun. On venait tous de backgrounds complètement différents. On était là pour avoir du fun, faire une soirée spéciale autour de ça. Puis c'est un peu ce même genre d'esprit-là qu'on va retrouver, parce que quand on a fait notre premier événement public là, qui était au Club Lambi sur Saint-Laurent, il y avait... quand il y a eu la finale, là, la finale de Mario Kart au Super Nintendo, il y avait quelqu'un... La finale s'est passée, je pense, entre un botaniste dans la trentaine qui travaillait au jardin botanique. Puis il y en avait... puis l'autre personne, c'était un garagiste de Montréal-Nord qui avait... c'était deux personnes là, de milieux complètement opposés, mais qui se sont retrouvés là, qui étaient ensemble, qui tripaient. Puis que c'est ça qu'on a vu, puis c'est ça qu'on a vraiment vu, c'était le pouvoir là, que le jeu vidéo pouvait avoir de rassembleur. Parce qu'il y avait ces deux personnes-là qui jouaient, mais il y avait toutes les personnes autour aussi qui regardaient ça, qui avaient du fun, qui trippaient. Puis encore là, maintenant, dans nos événements, on le voit aussi, évidemment, il y a la part intergénérationnelle. Que quand on va sortir de Atari, on a vu une grand-mère qui montrait à ses petits-enfants, ça, c'est les consoles de mon temps. Puis, mais là, on l'avait adapté avec des nouveaux jeux, fait qu'elle reconnaissait les manettes, mais c'est un jeu que la petite fille, elle connaissait. Fait qu'il y avait tout ce rapport-là intergénérationnel qui se passait. Puis sinon aussi, de rapprocher les gens, peu importe leurs origines, la classe sociale, le but, c'est qu'on est tous ensemble pour jouer à des jeux, puis on est ensemble physiquement dans le même endroit. Là. Fait que je pense que c'est vraiment ça l'esprit là, qu'on voulait reproduire. Puis, je veux dire, les jeux vidéo est une passion. En fait, on avait tous des backgrounds dans l'événementiel. On avait tous organisé des événements, mais on n'avait pas... Je veux dire, moi, quand on avait tous trippé sur des jeux vidéo, mais des jeux très différents quand on était jeunes. Je veux dire, moi aussi, ben, à l'époque, là, comme beaucoup de personnes de ma génération, sûrement qui sont ici, on avait gossé avec RPG Maker. À l'époque où on n'avait même pas besoin de le pirater, on pouvait le downloader sur une page Angel Fire. Il y avait quelqu'un qui faisait un site, puis tu pouvais juste downloader des logiciels piratés. Puis on avait... j'avais gossé avec ça, faire un peu des jeux. Donc c'est toujours quelque chose qui m'avait intéressé, mais j'avais pas nécessairement fait des choix de carrière là, dans cette direction-là. Puis c'est juste naturellement que c'est arrivé autour de cette passion-là.
Ça fait que ça a été un bon mélange, en fait, de déjà d'intérêt dans l'événementiel et ta passion pour le jeu vidéo, et donc éventuellement, ben, Gros Joueur est né.
Très bien. L'autre affaire que je trouve très intéressante de votre offre, c'est qu'il y a quand même aussi une volonté de développer un volet éducationnel dans ce que vous avez présenté potentiellement.
Oui.
D'où est-ce que ça vient, encore une fois? Est-ce que pour toi, le jeu vidéo a une culture suffisamment importante pour la culture populaire maintenant, puis il faut exposer ça? Ou toi, l'idée, c'est de prendre le jeu vidéo pour éduquer les gens au niveau des trucs fondamentaux, c'est-à-dire français, l'anglais, les communications, et ainsi de suite?
Bien, je pense qu'il y a plusieurs angles pour lesquels on peut voir le jeu vidéo. C'est à la base, moi aussi, j'ai une formation comme intervenant. Donc, okay. Jusqu'à tout récemment, là, je travaillais comme intervenant communautaire. Je travaillais avec plein dans plein de milieux différents, là, autant avec des jeunes de la rue qu'avec en milieu HLM. Aussi, j'étais animateur de camp de jour. J'ai toujours fait de l'animation, de l'intervention. Puis, en fait, de plein de façons, je pense que oui, il y a le côté d'éduquer les gens par rapport à l'histoire des jeux vidéo. Donc, ça, c'est un de nos services qu'on a. C'est un petit musée mobile là, sur l'histoire des jeux.
OK.
Donc, on donne aussi des ateliers sur l'histoire des jeux, où les gens peuvent tester les vieilles consoles puis en apprendre dessus aussi. Sinon, il y a aussi le fait que c'est quelque chose, je veux dire, avec le jeu vidéo, il y a quelque chose de très impliquant. Je veux dire, tu mets les mains directement sur quelque chose, tu es impliqué. Donc, c'est sûr que ça. Puis, je veux dire aussi, c'est quelque chose qui a un appel assez fort là, pour les gens les plus jeunes, mais aussi, là, disons, les. Je suis rendu à 40 ans et moins, là, oui. Pas mal. Puis, on peut l'utiliser comme outil pour social, pour rassembler les gens. On peut aussi, il y a toute l'éducation qu'on peut faire parce que l'histoire, le jeu vidéo est rendu quand même avec une histoire riche. Là. C'est plus, on en parle, c'est quoi, le 9e art?
Oui.
C'est ça? Oui. Fait que, il y a énormément de choses là, qui à apprendre par rapport à ça. Puis, il y a aussi tous les outils d'apprendre à fabriquer des jeux vidéo par rapport à la programmation, etc. Il y a plein d'outils qui existent maintenant qui sont très accessibles pour tout le monde. C'est comme par exemple avec les Makey, là, les petits circuits, là, on peut faire des ateliers pour apprendre à fabriquer des manettes. Avec les enfants plus jeunes, là, il y a des kits de blocs de construction que tu peux transformer en pixels pour après ça faire du pixel art puis intégrer des personnages dans tes jeux. Donc, c'est vraiment le but, c'est de trouver des outils qui sont les plus accessibles possibles, puis de pouvoir s'en servir après ça là, d'un point de vue éducatif. Autant dans des bibliothèques, dans des de plus en plus dans des écoles, dans les camps de jour, on va commencer ça aussi. Là.
Là, justement, tu fais des justement plus un volet éducationnel. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui frappe les gens par rapport à l'histoire du jeu vidéo? Est-ce qu'il y a un événement que tout le monde fait comme « Ah oh, oui, ça s'est passé de même? » Ou...
au niveau des plus jeunes, je pense qu'il n'y a pas de truc clé que j'ai retenu. Mais, par exemple, avec les gens qui sont les parents, si on veut, je ne vais pas dire les gens âgés. Ce qui va revenir souvent, c'est de réaliser que le jeu vidéo, à la base, c'était une industrie qui était vraiment américaine, tu sais, Atari et compagnie. Puis c'est vraiment après le gros crash là, économique qu'il y a eu que c'est Nintendo qui l'a repris puis qui a fait en sorte que l'industrie est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, il y en a beaucoup qui n'ont pas réalisé justement à quel point c'était quelque chose qui était plus américain au départ puis que ça a été complètement... Après, ça a été complètement repris par les Japonais là, pendant des décennies, là.
Non, j'avoue, de ma perspective, même des fois, moi, pour être honnête, je suis en 85, donc j'ai pas connu le crash. Mm-hmm. Mais c'est quelque chose, j'ai parlé avec mes parents, puis mes parents, eux autres, pour eux, c'est « Ah, les Américains ont juste ils sont calmés côté production de jeux, les Japonais sont venus. » Ils n'ont jamais su c'était quoi l'élément déclencheur. Puis à l'échelle de l'industrie, encore une fois, je pense que c'est un événement qui n'a pas été égalé, Dieu merci, mais qui est quand même important, là.
Ben oui, mais je veux dire, avant avant Nintendo, à ce moment-là, au crash-là, on pensait que les jeux vidéo, c'était une petite mode comme les POG ou les bâtons du diable, tu sais.
Les bâtons du diable, ça sonne vraiment intense. Ouais. As-tu ça, toi, Greg, des bâtons du diable?
J'ai aucune idée ce que c'est.
OK, c'est peut-être mieux pour toi. Sinon, l'autre affaire qui est très fascinante de votre installation ici à Montréal Joux, c'est que vous avez un super gros zapper, le super gros fusil. J'imagine que ça nécessite un peu de temps à bâtir des périphériques de même. Comment vous procédez?
Ça, en fait, d'ailleurs, là, c'est la première fois qu'on le sort en public. Là. C'est une primeur mondiale là, pour l'événement aujourd'hui. Je t'entends dire que c'est un zapper, là, mais en fait, c'est pas vraiment ça notre influence. Je veux dire, c'est un gros gun orange. Visiblement, l'influence, c'est Donald Trump. Là.
OK.
C'est pas, on l'a fait spécifiquement pour lui. C'est pas dans un but de nostalgie ou quoi que ce soit. Là.
OK, donc même, j'ai dit périphérique, mais en fait, c'est plus un statement politique.
Exactement. Wow. On aimerait ça que d'ici la fin de l'année, il y en ait un dans chaque classe aux États-Unis.
OK, très bien.
Celle-là, c'est pour mon ami Joël.
Ouais, est-ce qu'on apprécie cette stratégie-là? Non? Ouais. OK, très bien. Ça paraît qu'on vote pas, hein, pour les États-Unis. Mais... Sinon, bon, justement, ton côté, comment tu procèdes? Parce que, bon, on va y aller avec une dynamique de production de produits. D'abord, souvent, ça part d'un besoin. Pourquoi as-tu opté pour faire ton statement politique de cette solution qui est le gros apport?
Bien, en fait, c'est... par rapport à toutes les nouvelles bébelles là, qu'on va designer, c'est quelque chose... La plupart du temps, ça vient d'idées qu'on a eues depuis longtemps, qui vont traîner dans un coin de notre esprit. Puis là, à un moment donné, on va aller de l'avant, puis on va le faire. Je te dirais que pour les, le côté là, de recherche et développement, tout ça, c'est plus mon collègue Olivier qui s'en occupe. C'est sûr qu'on est tous impliqués. Tout le monde met la main à la pâte là, dans toutes les différentes sphères là, de l'entreprise. Mais pour ce gun-là, en fait, là, on avait la Managerante, c'était un de nos premiers hits qu'on avait. Après ça, on a essayé plein de trucs différents. Il y a certaines installations, en fait, qui sont plus... Leur but, c'est plus de magnifier le jeu qui va plus mettre en valeur le jeu là, qui est là, comme on a des comptoirs d'arcade, la table qu'on a amenée là aussi aujourd'hui. C'est ça, à ce moment-là, c'est vraiment plus de mettre le jeu en valeur. Mais là, on se disait, pourquoi est-ce qu'il serait temps qu'on revienne avec une grosse bébelle là, flashy comme ça? Puis là, ben, ça n'a pas pris beaucoup de temps qu'on pensait c'est quoi les périphériques les plus emblématiques qu'il y a. Puis là, après la manette, ben c'est le gun, le zapper.
Effectivement.
Là, après ça, ben, c'est sûr qu'il y a tout le procédé, trouver comment ça va se faire, parce que la direction artistique de physiquement de quoi il a l'air le gun, mais il y a tout l'aspect aussi, là, le mécanisme, comment ça fonctionne. Donc ça, c'est Olivier qui a tout trouvé les... On a essayé avec différentes technologies pour voir arriver au meilleur résultat. Finalement, sur laquelle on s'est arrêté, là, c'est, on a essayé avec la Wiimote, on a essayé avec, avec des pointeurs laser, on a essayé avec les PS Move, puis finalement, là, c'est le HTC Vive. Donc, on a utilisé la tête là, pour faire le tracking. Puis pour ce qui est du design du gun en tant que tel, qui n'est pas comme un zapper, qui est juste assez différent, c'est pas un zapper. Pour des raisons légales. Et puis, c'est qu'on on a travaillé avec quelqu'un qui construit des maquettes dans la vie. Il construit des mascottes, en fait, là, des mascottes géantes. Puis, on a travaillé avec lui pour construire un gun. On a choisi les matériaux, etc., pour avoir quelque chose qui soit léger, confortable, assez... au travers de tout ça, c'est que nous, on va faire beaucoup de trucs de façon maison, qu'on patente avec tous les outils qu'on a, mais on n'hésite pas non plus à aller outsourcer pour aller chercher là, justement la coche supplémentaire pour vraiment arriver avec un produit professionnel. Au début, on avait tendance à tout faire plus à la maison, mais c'est qu'il faut connaître aussi ses propres limites. Puis je veux dire, on est entouré de gens qui sont très talentueux, puis il ne faut pas hésiter non plus à aller vers eux. Là, c'est la même réflexion qu'il y a derrière le choix des jeux qu'on a dans nos installations. C'est sûr que ça nous est passé par la tête, on pourrait créer des jeux, mais finalement, il y a tellement de jeux indépendants de qualité là, qui gagnent à être connus. Je veux dire, juste au Québec, là, on voit qu'est-ce qui se passe ici, puis même à l'international, que c'est un peu ridicule de vouloir se lancer là-dedans et de vouloir créer notre propre jeu, alors que nous, qu'est-ce qu'on veut, c'est... On fait des événements, donc... En fait, c'est la plupart des développeurs avec qui on a communiqué pour utiliser leur jeu dans des contextes événementiels, bien, ils tripaient, tu sais. Puis il y en a plusieurs qui ont marqué même des spikes dans leur vente, après, là, quand on faisait des événements comme la vitrine, là, où il y avait des milliers de personnes qui venaient. Tu sais, il y avait le jeu Push Me Pull You, une espèce de jeu là, d'hybride, là, Soccer Sumo, puis Human Centipede. Là. Puis ce jeu-là, on l'avait eu la version alpha pour le présenter à la Nuit Blanche. Puis ils ont vu, c'est un studio australien, puis ils ont remarqué des spikes de vues sur leur site là, du Canada là, à ce moment-là. Là. Fait que je pense que c'est vraiment un échange qui est bénéfique pour tout le monde. Nous, ça nous donne du contenu qui est le fun. Pour les développeurs, ben, ça leur apporte une vitrine supplémentaire. Puis c'est à ce moment-là qu'on voit, je pense que nous, on se situe dans un rôle différent dans l'industrie par rapport aux autres personnes qui sont ici. Puis nous, on a tout avantage là, à mettre tous les efforts et les talents des créateurs d'ici là, dans nos événements. Là.
Très bien. J'ai une question un peu pointue pour toi.
Ouais.
Avant de sortir un truc de même, est-ce que vous faites des tests de durabilité ou tests de mauvais comportement? Dire, bon, disons, à Nuit Blanche, il y a un gars vraiment bourré qui prend le zapper, comment ça pourrait virer en tragédie? Est-ce que vous avez une réflexion face à ça?
Absolument.
Oui. Ouais.
On a...
Est-ce que tu saules un gars sur ton équipe et tu regardes les résultats ou c'est plus scientifique?
J'essaie de... Parce qu'il me semble...
Ce que tu peux dire aussi dans les genres, là, je veux pas...
Ouais, oh. Mais j'ai... en fait, il y avait même un petit cours que j'avais donné, ben, en fait, une présentation que je donnais à l'UQAT par rapport à... pour le cours de Louis-Félix Cochon, là, qui était oui. qui est le, en fait le directeur le président de la guilde des développeurs, puis qui est aussi enseignant à l'UQAT. Puis, dans son cours, c'est que je lui ai donné une présentation sur les défis du jeu vidéo événementiel. Puis là, quand on parlait de jeux vidéo événementiels, c'est, oui, il y a tout l'aspect, il faut que ça soit des jeux, t'sais, à prise en main rapide, les gens embarquent rapidement, il peut y avoir un roulement, c'est simple d'expliquer les jeux. Mais il y avait aussi toute la notion d'accessibilité, t'sais, au jeu que peu importe les gens, c'est quoi leur grandeur, sont en chaise roulante, des plus jeunes, des plus vieux, il faut que ça soit... Mais il y a toute la notion d'hygiène aussi, ça va être des périphériques que les gens vont se passer. Puis, il y a la notion de, est-ce que, t'sais, oui, est-ce qu'un enfant va être capable de jouer? Mais est-ce qu'un gossou va être capable de jouer mm-hmm. sous ou plus encore? T'sais, dans le cadre de la Nuit Blanche, là, on s'entend. C'est vraiment drôle d'avoir la transition de crowd. Là. Ça ouais, commence que... avec les familles. Puis là, c'est ça, là, comme l'heure, au fur et à mesure que l'heure augmente, là, la grandeur des pupilles des gens aussi, c'est proportionnel, là, augmente. Puis là, après ça, il faut dealer avec ces personnes-là. Parce que oui, on a vu certains périphériques qui ont pris le bord et qu'on n'a pas... t'sais, comme par exemple, on avait fait une espèce de tapis de danse custom, puis ça, visiblement, avec des gens qui étaient très avancés, ça ne fonctionnait pas. Fait que finalement, on s'en est juste remis. Là, maintenant, on achète des tapis Dungeons Revolution. Là,
OK, la légalisation du pot, est-ce que ça t'inquiète actuellement ou...
Pas vraiment.
Non, OK.
Non. Moi, je pense pas que les gens vont juste être plus smooth avec nos affaires. Ils vont plus prendre le temps d'apprécier qu'est-ce
qu'ils
voient.
Ils vont peut-être caresser les apports aussi. Ouais.
Ils vont peut-être... Non, ça, c'est plus MDMA. On l'a... OK. Ouais. Mais ça devrait... Non, j'ai confiance.
OK, c'est bon.
Clairement, sinon, pas, tu connais juste... pas tes produits de drogue, apparemment.
Désolé, hein, moi, je suis un petit gars propre.
Mais sinon, je vais essayer de te poser une question bien longue. T'as le temps de manger un peu de poutine, ouais. Quand même. C'est quand même l'inconvénient des fois quand l'invité parle beaucoup, il n'a pas le temps de manger. Moi, je vais juste revenir un peu sur le côté éducationnel et le côté musée du jeu vidéo. Parce que, d'un, je trouve ça intéressant. Il y a peu d'endroits qui font ça, en fait. Alors que, comme on l'a mentionné, tu en as parlé un peu, c'est vrai que le jeu vidéo a une très belle histoire, très intéressante de voir un peu les différentes évolutions, non seulement technologiques, mais aussi de genre de jeu. Mais je me demandais même si pour toi, d'une certaine façon, ce n'était pas été une façon pour toi de peut-être redécouvrir des jeux que tu n'avais pas pu découvrir dans ton enfance vu que tu étais limité sur PC. Mm-hmm. Est-ce que même en faisant en préparant ce musée du jeu vidéo, est-ce que tu as des choses que tu as découvert que tu ne pensais pas découvrir à l'époque? Mm-hmm. Prends ton temps, il n'y a pas de problème.
Ouais, ouais. On ne veut pas d'incidents sur la scène, là, donc prends ton temps.
C'est sûr qu'en faisant les recherches là, pour le musée, en fait, le musée, c'est plus une exposition, là, on s'entend, là, parce qu'en fait, c'est vraiment... Il existe, mais maintenant, il y en a un musée là, de jeux vidéo oui. qui est à...
Voilà.
C'est à Sherbrooke?
J'en avais entendu parler vaguement, ouais. Mais je savais pas c'est quoi cette
exposition. Parce qu'en fait, nous, c'est juste une petite exposition mobile qu'on peut déplacer là, un peu partout là, pour justement expliquer ça, peu importe le contexte. Mais en faisant la recherche, il y a quand même énormément de choses là, que j'ai appris, mais je dirais que moi, il y a une série que j'ai découvert vraiment sur le tard. Si je vais aller plus général, là, ben c'est la série Zelda que j'ai vraiment découvert. Tu sais, le Link to the Past, là, j'ai dû faire ça en 2006, puis Ocarina of Time 2010. Puis Ocarina of Time, c'est rendu mon classique pratiquement chaque année. Dans le temps des fêtes, c'est mon ciné-cadeau. Moi, j'écoute pas ciné-cadeau, mais je vais le speedrun Ocarina of Time là, à 100%. Là.
Très bien.
Fait que c'est vraiment ça, je dirais, dans les jeux que j'ai redécouverts, là, c'est peut-être pas spécifiquement dans le cadre du musée, mais en quand j'ai commencé à plus m'intéresser aux jeux rétro, consoles, à repasser tous ces jeux-là, c'est vraiment ça, là, la série que j'ai découvert. Là, fait que j'ai l'impression que sûrement... Breath of the Wild, j'ai vraiment hâte de pouvoir le découvrir en 2025. Là.
Ouais. Non, c'est ça, parce que même aujourd'hui, tu es encore en décalage, que tu repasses à travers beaucoup d'anciens jeux. Mmh. Ouais. Mmh. Écoutez, nous, ce qu'on pensait faire pour la fin de l'émission, si jamais il y a des gens dans l'auditoire qui ont des questions pour Jules ou même pour moi et Pat, on va vous ouvrir le micro.
Mais il n'y a pas de micro, c'est ça l'affaire.
En fait, on va vous ouvrir la parole et on va répéter votre question dans le micro. Oui, ce brave personne qui est très, très enthousiaste.
Est-ce que vous m'entendez?
Oui, on t'entend, Simon.
Donc, juste répéter la question pour vu qu'on enregistre aussi l'épisode. Donc, la question, c'était, est-ce qu'il y a des enjeux légaux auxquels vous avez à faire face dans les projets, en termes de aussi bien accessoires que même les jeux que vous pouvez montrer dans vos événements? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas pu faire à cause de considérations légales? Ou comment, en fait, vous gérez un peu cet aspect-là?
Oui. Bien, c'est sûr que tout le contenu qu'on va avoir, en fait, avec des développeurs indépendants, ils vont toujours être contactés, ils vont toujours être mis au courant par rapport au fait que leurs jeux ont été utilisés. Pour ce qui est des jeux rétro, au niveau des périphériques, comme j'avais mentionné là, plus tôt, on va s'assurer qu'il y ait assez de modifications pour pas qu'on puisse avoir de problèmes par rapport à ça. Comme là, le gun est un peu plus court, il n'y a pas la même texture dessus. Mais il y a quand même... On joue quand même sur une mince ligne par rapport aux jeux rétro, mais il y a tout l'aspect dommage. Je veux dire, il y a la représentante dans le cadre d'une des éditions de Montréal Joue, il y avait la représentante de Nintendo of Canada qui avait vu la manette géante, qui l'avait pris en photo, puis qui l'avait tweeté là, avec le compte de Nintendo. Puis ça s'était bien passé. Il y avait plein de likes, tout le monde était content. Fait que ça nous a donné une espèce d'aval non officiel par rapport à la situation. Mais sinon, c'est vrai que par rapport au jeu, mais surtout que là, en ce moment, avec l'envol du e-sport, il commence à avoir de plus en plus... Au début, c'était très casual d'organiser des compétitions de jeux dans des bars, etc. Puis ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles on va plus organiser des compétitions de jeux vidéo, là, même rétro, dans les bars, parce qu'en ce moment, on voit qu'il y a toute l'industrie qui se développe là-dessus. C'est pas non plus notre rôle, notre place, je pense. Au début, on faisait ça. On organisait des compétitions dans des bars parce qu'il n'y avait pas d'autres offres qui se passaient. Puis d'ailleurs, c'est juste une anecdote là, par rapport à ça. C'est qu'on l'avait vu quand on avait fait on faisait nos événements dans les bars. Notre cinquième, sixième, c'est là qu'on avait eu vraiment un gros succès. C'était la salle qui s'appelle Jackie and Judy's qui n'existe plus là, sur Parc. Puis il y avait un tournoi de Street Fighter 4 où il y avait... En fait, on était assez... Ça avait, le bruit s'était rendu à Street Fighter Montréal, donc qui était venu pour participer. Donc nous, on avait notre champion local qui était en fait... C'est ça, c'était tous des joueurs à temps perdu qui étaient comme vraiment bons dans le temps puis qui étaient comme hey, « moi, je te bats à Street Fighter. » C'était l'ambiance de franche camaraderie. Puis là, il y a ces gars-là qui arrivent avec leur pad. Nous autres, on n'était pas du tout dans le game là, du e-sport. Il y a ces gars-là qui arrivent avec leur pad, que là, on leur offre une bière, c'est comme « Non, nous autres, on ne boit pas avant la compétition. » Fait que là, on réalise « OK, on est là. » Fait que là, notre champion, qui s'était préparé une chanson avec une vidéo d'entrée puis tout, il s'est fait laver là, comme un quart de seconde. Finalement, ben, c'est les gars qui ont fini ensemble les quatre là, en demi-finale, finale. Puis le gagnant, le cash price, je pense, c'était comme 200$ puis un saut de bière, tu sais. Fait que les belles en bière, puis ses amis, ils se moquaient de lui, le gagnant, parce que, genre, une semaine avant, il avait gagné 10 000$ là, à New York, dans un tournoi, là. Fait que c'est là qu'on a compris, OK, on va jeter la serviette pour le e-sport. C'est pas... On est pas dans cette game-là. Fait que c'est pour ça que là, en ce moment, mais de plus en plus aussi... Là, c'est sûr, on a le gun qui vient de sortir, mais le gun, là, ici, ce soir, on le présente avec Duck Hunt, mais le périphérique, on veut l'utiliser avec d'autres jeux aussi, là.
Très bien.
Donc, c'est ça, le plus possible, c'est d'aller vers l'indie pour... c'est aussi un... Je pense que ça fait partie de notre mission de faire connaître tous les jeux indépendants qui se passent, là. Ça répond à la question?
Oui. Sinon, y a-t-il d'autres questions du public? Bon, ben regarde, moi j'ai une question pour vous, messieurs.
Oui.
Ouais, ben vas-y, non, ben vas-y.
Moi, j'ai juste une petite question pour toi, puis la poutine General Tao.
C'était vraiment bon, honnêtement. J'avais certaines appréhensions, parce que bon, on s'entend que General Tao, c'est une poutine, c'est pas le truc le plus intuitif.
Non.
Des fois, ça peut virer en couille, trop sucré, trop taoesque.
Mais c'est-tu une sauce régulière?
D'après moi, c'est un peu un mélange des deux. Donc, partiellement de sauce General Tao, mais il y avait quand même un petit côté, pardonne-moi, l'anglicisme de gravy là-dedans. Je sais pas pour vous, qu'est-ce qui s'est passé, là?
Qu'est-ce que c'est?
Comment était ta poutine?
Ah, ben, la... La poutine, c'est, je veux dire, j'ai surprenamment, j'étais capable de prendre plusieurs bouchées, tu sais, malgré la grande quantité de poutine que j'ai ingurgitée hier. En fait, je l'ai pas mangé tant que ça, mais elle était tellement salée, là. Je veux dire, mon collègue, là, Murph, ici, pour en témoigner, je veux dire, mes lèvres s'en sont pas remis. Genre, depuis que j'ai pris des bouchées, on dirait qu'ils ont rentré par en dedans, ils ont fendu, là, complètement. J'ai l'impression d'avoir mis du gros sel sur une limace, là, puis c'est l'état dans lequel mes lèvres sont, là.
Pour les auditeurs, actuellement, on pourra pas récupérer la nappe, elle est pleine de sang, c'est dégoûtant. Mais Greg, qu'est-ce qui arrive avec toi?
Écoute, la poutine était bien. La merguez était pas coupée assez petite, à mon goût.
Ouais, donc, c'est quoi cette espèce de caprice-là, de morceau de merguez?
Je suis très capricieux. J'avais un très gros morceau de merguez que, n'ayant pas de couteau, il a fallu que je mange tel quel. J'aurais préféré qu'il soit plus petit. Voilà.
Fait qu'il aurait fallu que quelqu'un la mange pour toi avant ou...
Peut-être pas, mais j'aurais aimé pouvoir mieux mélanger ma merguez. Bon.
Très bien. Off the mic, on a déjà eu des discussions à propos de la merguez. C'est une position assez radicale à propos de la merguez à Montréal. Elle n'est pas vraiment épicée. Celle-là, est-ce qu'elle est épicée?
Elle avait un petit arrière-goût d'épicé, mais effectivement, elle était encore un peu faiblarde à mon goût.
Oh là là. As-tu une bonne adresse à Montréal pour la merguez qui est suffisamment épicée?
En fait, je vais envoyer ça à nos éditeurs. Si vous savez où trouver de la bonne merguez à Montréal, je suis preneur parce que... Non, j'en ai pas trouvé.
Sur Jean Talon, à côté du marché.
Oui, c'est vrai, eux autres sont
légers. En face du Tim Hortons.
Oui.
Puis en face, c'est ça, c'est Alcazar, je pense que ça s'appelle.
OK, d'accord, je vois c'est où.
Excellente merguez d'agneau.
Il se proclame la meilleure merguez à Montréal et je crois que c'est mérité personnellement.
Oui.
Absolument. Hey, on va conclure au lieu de tout le temps parler de saucisses, ça commence à être malaisant. Donc, on va y aller avec une conclusion. Encore une fois, vous avez aimé ce que vous avez vu, écouté ce soir. Bien évidemment, Poutine à deux est présent sur Apple Podcasts. Donc, cherchez Poutine à deux, vous allez nous voir la face. C'est fantastique. Sinon, Greg, aussi, on fait d'autres choses dans la vie?
Oui, mais si jamais vous... Poutine à deux, c'est un podcast mensuel, donc une fois par mois. Mais si vous voulez entendre la voix de Patrick Tellan et ou la mienne parler de jeux vidéo, nous avons aussi Les Jeux sont faits, qui est un autre podcast où on parle soit d'activités, soit de jeux vidéo, de sujets qui touchent aux jeux vidéo, mais avec un point de vue de développeur. Donc, on essaie vraiment d'amener peut-être un angle un peu différent sur les différentes nouvelles qui touchent le domaine du jeu vidéo.
Très bien. Jules, je suis fasciné, je suis intéressé par gros joueurs. Qu'est-ce que je fais?
Le mieux, c'est vraiment de... Malheureusement, notre social media game est vraiment pas bon.
C'est pas grave, le nôtre aussi, mais je t'en prie, continue.
Je vous invite vraiment à aller voir notre site, donc grosjoueur.com. Après ça, vous pouvez communiquer avec nous par courriel. On répond très rapidement au courriel. Donc, autant pour des entrevues, de l'information, ou si ça vous tente d'avoir un autre genre d'animation, si vous avez un mariage, un party, qui s'en vient quelque chose, vous voulez ajouter une petite touche de jeu vidéo. Puis, sinon, quelque chose qui est important, c'est si il y a des game devs qui entendent ça, c'est si vous avez des jeux, principalement des jeux local, multiplayer, rapide, etc., n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. On est toujours à la recherche de nouveaux jeux qui sont le fun pour pouvoir les mettre de l'avant puis pouvoir travailler avec vous.
Et comme tu dis, souvent, vous avez des grosses vitrines à Montréal. Bon, tu avais parlé de la Nuit Blanche, c'est quand même des événements très importants à Montréal. Donc, définitivement, ça vaut la peine. Finalement, on va parler de notre partenaire de distribution, Radio Kawa. Si encore une fois, vous aimez les balado-diffusion ou podcast, comme dirait le reste du monde francophone, il y a Radio Kawa qui a quand même beaucoup de types d'émissions, notamment si vous aimez les nouvelles de jeux vidéo, les critiques de jeux vidéo, il y a La Cartouche qu'on apprécie beaucoup. D'ailleurs, on va saluer Yann qui s'en occupe. Sinon, si vous aimez la culture nippone, souvent ça arrive parmi les fans de jeux vidéo, il y a Lodge Japon. D'ailleurs, ça m'a vraiment cherché récemment. Il y avait un podcast, un épisode à propos de la lutte japonaise. Ils ont parlé du Ballet Clubs, donc excellente série. Et sinon, on a aussi des fois des trucs très éclectiques qui sortent de la sphère geek. Donc, si vous avez des problèmes d'amour ou vous avez une misère à avoir une relation dans ce monde de Tinder, c'est quoi les autres applications branchées, Greg? Moi, je suis pas en contact avec ça.
Bumble et Happn, c'est les deux autres.
Donc, c'est ça. Si vous êtes comme moi, mêlé face à ces solutions du futur pour trouver l'amour, vous pouvez écouter des émissions comme Match Moi. Je vais y aller tout simplement avec les remerciements. Merci à toi, Greg, encore une fois.
Merci beaucoup. Toujours un plaisir.
T'as pas gerbé sur la table. Je suis vraiment content de toi. Soit dit en passant, il n'y a pas de réputation pour faire ça. Sinon, un gros merci à toi, Jules. Ça a été vraiment plaisant.
Merci à vous, Pat, Greg. C'est vraiment le fun.
C'était un plaisir. Et j'aimerais bien évidemment remercier nos bons amis de Montréal Joue. Et tant qu'à y être, notre public. Merci à vous. Voilà.
Yeah!
Donc, sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Au revoir.
À la semaine prochaine. On est là à nouveau la semaine prochaine.
Toutes les deux semaines avec Yann
et avec Lou,
on vous parle du jeu vidéo d'aujourd'hui à travers les news, des critiques de jeux, des dossiers.
On reçoit également des invités et on répond à vos questions.
La cartouche, ce n'est pas toute l'actualité du jeu vidéo,
c'est votre actualité du jeu vidéo.
Un vendredi sur deux
sur Radio Kawa.
C'est La Cartouche sur Radio Kawa.
On dit souvent que tout était mieux avant. Qu'en pensez-vous, Papy Groublin ?
C'est vrai. Tout était beaucoup mieux avant. À l'exception de la difficulté de l'accès à la musique japonaise.
Coucou, c'est Amo. Kaorin, c'est le podcast musical dédié à la culture visuelle japonaise. Générique et soundtrack d'anime, JRPG, visual novel, toutes les époques, tous les genres, que vous soyez otaku ou non. Kaorin, votre podcast musical d'1h30 sur la culture visuelle japonaise, c'est sur Radio Kawa.
Puis on n'avait pas de doujin hentai ni zekai non plus.
Mais arrête, Pépé.
Quand vous découvrez un bon restaurant, vous en partagez l'adresse avec vos amis. Les podcasts, c'est pareil. Pour aider vos productions Radio Kawa préférées à se faire connaître, rendez-vous sur leur page iTunes Store et foncez les noter.
Et à mon avis, elle mérite 5 étoiles.
Plus nombreux vous serez à noter nos émissions, plus cela aura d'effet. Merci et bonne écoute.